7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, gros plan sur l'école en République démocratique du Congo, dans un pays où la jeunesse est en ébullition, vous le savez. Qui a vraiment accès à l'éducation? Combien payent les familles? Pour quelle qualité d'enseignement? Et puis surtout, dans le fond, quel avenir pour les jeunes, du coup? Nous allons en discuter en direct avec le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Bonjour Makamwangu Famba.
Bonjour Manon.
Merci, vous êtes de passage à Paris. Merci d'accepter de dialoguer en direct avec les voisins et les voisines dans le studio de 7 milliards de voisins à RFI. Je dois dire que vous êtes l'un des rares ministres au même poste à l'éducation au Congo depuis 2007, c'est ça ?
2007, oui, depuis février 2007, oui.
Donc une vraie continuité, on va dire, dans le pouvoir sur l'éducation au Congo. Mais pour quel résultat ? C'est la question aussi qu'on va se poser. Les experts continuent de dire que l'État congolais ne dépense pas assez d'argent pour l'école dans ce pays aux besoins immenses. Alors quant à vous les voisins, les voisines, si vous êtes parents, si vous êtes enseignants ou lycéens, appelez-nous tout de suite, n'attendez pas la fin de l'émission pour participer aux discussions et interpeller le ministre de l'Éducation. Je vous donne le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Monsieur le ministre, vous savez que l'internet mobile fonctionne extrêmement mal en RDC depuis les événements, mais néanmoins on a quand même quelques messages sur notre fil Facebook, beaucoup moins que d'habitude. Glody par exemple nous dit que l'enseignement en RDC est complètement par terre, seul un petit nombre d'écoles catholiques tiennent encore le coup. En bref, nous dit Glody, l'école en RDC c'est un véritable chaos, et du gouvernement congolais par la voix de monsieur Macaire, nous n'attendons que le chaos final, voilà. Ou encore Balkissa qui nous dit: toutes les violences que nous pouvons constater au niveau de la population sont quelque part le résultat d'une éducation bafouée. Ne dit-on pas que l'enfant est le père de l'homme? Allez, je rappelle le numéro, il faut nous appeler maintenant pour évoquer des questions précises sur l'école au Congo. 33 1 84 22 71 71. Makamwangu Famba, Kinshasa retour au calme, Goma toujours très agité, beaucoup de jeunes on l'a vu hein, dans les rues, le campus universitaire à Kinshasa au centre aussi de la contestation et des énervements. On a vu aussi des enfants hein, dans les rues pour protester contre le projet de loi électorale. Quelles leçons vous, quelles analyses vous en tirez en tant que ministre de l'Éducation, même si vous n'êtes plus ministre de l'Enseignement supérieur?
Oui, merci beaucoup madame pour cette opportunité que vous nous offrez pour que nous arrivions à parler, dialoguer directement avec vos auditeurs. J'aimerais d'abord vous dire que, contrairement à ce qui a été dit, ou ce que disent, je ne sais pas, quels espèrent, le gouvernement congolais verse beaucoup d'argent pour le moment dans le secteur de l'éducation. C'est vrai que peut-être les gens sont restés avec les clichés des années 90, quand les trésors publics versaient jusqu'à 3% du budget national pour l'éducation. Et voilà, la plupart des problèmes que nous sommes en train de traîner aujourd'hui viennent de là. Donc, quand pour une population nombreuse comme ça, une population jeune, vous réservez 3% du budget national pour l'éducation, il faut vous attendre au pire. Et voilà que, conscient de ça, le président de la République a donné des instructions. Et aujourd'hui, le budget de l'éducation est le premier poste, l'éducation est devenue le premier poste budgétaire de la République démocratique du Congo en 2014.
Devant l'armée.
Devant l'armée.
La défense.
Devant l'armée. Devant l'armée. Et aujourd'hui, nous sommes à 16%.
Du budget de l'État.
Du budget de l'État.
Les bailleurs vous demandent 20%.
Les bailleurs nous demandent 20%. Mais nous venons de 3%. Pour arriver à 20, il faut quand même aller d'une manière transitoire.
Quand on part de rien, en même temps, c'est facile de progresser.
Voilà, donc on progresse, c'est ce qui est très important. Donc nous sommes en train de progresser et nous sommes sûrs que nous allons atteindre les 20% attendus par les experts. Voilà, donc nous sommes en train d'avancer.
Alors, autre chose. Vos impressions là sur la crise de ces derniers jours, en tant que ministre de l'Éducation, le ras-le-bol des jeunes.
Quand je vois ce qui se passe dans notre pays, je compare un tout petit peu avec ce qui s'est passé il y a quelque temps avec les événements ici de Charlie Hebdo. Quand il y a eu des problèmes ici, je crois que tout le monde a regardé vers l'école. C'est vrai que ce qui s'est passé, nous, au niveau de l'école, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous nous posons des questions, nous avons deux types de réponses. La première réponse que nous avons, c'est celle que le dernier gouvernement a essayé de régler en mettant à la disposition ou bien en rattachant l'initiation à la nouvelle citoyenneté au ministère de l'enseignement primaire. Et en ouvrant un autre ministère, celui qui s'occupe de la formation professionnelle. En ce qui concerne l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ce qui est recherché, c'est améliorer les relations entre les citoyens et la cité. Peut-être qu'il y a un manque d'informations, il y a des malentendus, et c'est normal que nous, au niveau du secteur, qu'on arrive à dire aux futurs citoyens, aux futurs, à l'élève d'aujourd'hui, qu'on lui dise quels sont ses droits, mais quelles sont aussi ses obligations. Ses droits et ses obligations par rapport, en tant que membre d'une communauté, par rapport aussi à l'État. Parce que par rapport à la communauté, sa liberté va jusque là où ses limites, celle de l'autre. Et par rapport à l'État, donc on doit savoir qu'est-ce que l'État veut pour cette même population.
Vous faites une comparaison avec la France. Moi, je pensais que vous alliez faire une comparaison avec le Burkina Faso, où clairement, on a eu il y a quelques mois une révolution de jeunes sans emploi, malgré leur diplôme, une révolution de jeunes très énervés, dans le fond, par le manque de perspective.
Voilà, donc j'ai parlé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et la deuxième réponse, toujours en répondant à votre question, c'est le nouveau ministère qui vient d'être créé, qui va s'occuper de la formation professionnelle de nos enfants. Pourquoi? Parce que le système que nous avons hérité un peu de la colonisation a fait que, quand vous entrez, peut-être c'est l'histoire, parce que bon, nous avons eu, à l'indépendance, ne l'oubliez pas, nous n'avions eu que 4 universitaires. Ce qui fait que notre système éducatif a été fait, de sorte que quand vous entrez à la maternelle, vous n'avez qu'une solution, c'est aller à l'université ou à l'enseignement supérieur. Alors maintenant, toutes les étapes transitoires, on les avait plus ou moins oubliées. Et là, le rôle de ce ministère qui vient d'être créé, c'est justement voir différentes étapes, quelle chance il faut donner à ces enfants pour que même s'il ne peut pas continuer, s'il ne peut pas aller à l'université, qui peut être un choix,
apprendre un métier.
À tout moment, il apprenne un métier. Et je crois que c'est avec ça qu'il va nous permettre
On aura l'occasion sûrement d'y revenir. Hein. Alors nous allons aller pas à pas à la lumière de vos interventions, vos appels au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un premier voisin qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Balker.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et particulièrement de cette émission, cette lumière des bazars. Bonjour également à Monsieur le ministre, Mathieu Mongo, qui est sur votre plateau, madame.
Balker, vous souhaitez intervenir sur la gratuité de l'école en RDC.
Merci madame. D'ores et déjà, je voudrais ici souligner que pour des raisons de compétitivité, de performance quant à la qualité de l'enseignement, mon choix est orienté vers le privé. C'est ainsi que, par exemple, mes enfants sont en maternelle à l'école primaire aux humanités dans les établissements privés parce que nous avons besoin de la qualité. Parce que, madame, ce qui est vrai, c'est que l'ensemble de tous les parents ne sont pas en même de prendre en charge le frais des enfants dans la scolarité et chez le privé, parce que dans la plupart des cas, c'est extrêmement cher. Et ce qui me pousse là-dessus à poser ma première question sur les dés que je dispose à Monsieur le ministre, à quand est l'état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire sur tout l'ensemble du territoire national.
À quand une vraie gratuité de l'école en RDC? D'accord, Balker. On laisse la parole à un autre auditeur également qui veut s'exprimer sur le même sujet. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes également à Kinshasa. Nous vous écoutons. Je crois que vous êtes père de famille. Vous avez 2 enfants. Hein.
Ok, merci beaucoup. J'ai quand même une question à poser à son excellence, monsieur le ministre, que je salue aussi.
Merci beaucoup, Laurent.
La question, c'est... Oui. Alors, nous savons que notre Constitution dispose à son article 43 que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire dans les établissements publics de l'État. Maintenant, Aujourd'hui, si vous pouvez nous dire combien de provinces sont concernées par la gratuité, et dans ces provinces-là, si vous pouvez nous citer au moins 5 écoles où il y a la gratuité, parce que nous, étant aussi dans le monde de la société civile et des droits de l'homme, nous arrivons à sillonner les différentes provinces. On n'a jamais trouvé une école qui offre la gratuité de l'enseignement, quel que soit public ou privé. Il n'y a que celles, les ONG, qui sont financés par les partenaires extérieurs qui, à un moment donné, arrivent dans une école, ils payent les frais pour les enfants, pour quelques enfants, et qui doivent étudier gratuitement.
D'accord.
Mais alors que la Constitution dispose que
c'est
gratuit, si on peut nous citer seulement, monsieur le ministre, peut nous citer seulement 5 écoles où il y a la gratuité, qu'on peut vérifier parce que c'est à tout moment qu'on dit.
D'accord, on a bien compris. Donc finalement, ce que vous déplorez, c'est le décalage entre l'affichage politique, les annonces et la réalité sur le terrain. Officiellement, l'école est gratuite en RDC, monsieur le ministre, partout sauf province de Kinshasa et de Lubumbashi, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est pas une annonce politique, madame. C'est pas vraiment.
Non, c'est ce que nous disait Laurent. Il dit.
Oui,
voilà.
Laurent et Balker. Bon, ils n'ont pas des données réelles. C'est vrai, c'est ça. Je demande toujours à nos amis de la société civile de nous approcher pour qu'on échange sur un certain nombre d'éléments. La gratuité, je l'ai toujours dit quand, en octobre, qu'est-ce que j'ai dit? En août 2010, quand le président de la République, Joseph Kabila, a demandé au gouvernement d'amorcer le processus de la gratuité, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, on ne peut pas faire la gratuité comme on l'a fait dans d'autres pays. Parce qu'avant qu'on prenne cette décision, nous avons sillonné un certain nombre de pays voisins où on avait déjà amorcé la politique de la gratuité. On s'est dit, nous allons mettre en œuvre notre politique de la gratuité d'une manière graduelle. On a commencé avec les trois premières
graduel,
années.
Ça fait 4 ans, effectivement.
Voilà. On commence d'une manière graduelle, en évaluant et en avançant pas à pas, pour que, bon, que les effets de la mise en œuvre de la gratuité ne jouent pas, ne perturbent pas le fonctionnement normal de notre système éducatif. Et aujourd'hui, nous avons, quand je prends par exemple l'année, ça sont les statistiques qui ne viennent même pas du gouvernement
congolais. Mais là, congolais. La question de Laurent, elle est très simple finalement. Est-ce qu'il y a réellement sur le terrain
des
écoles qui sont vraiment gratuites, qui répondent exactement à ce qui est annoncé?
Ah oui, il y en a. Il y en a, madame. Il y en a. Vous entrez dans certaines écoles et nous rencontrons même un autre problème.
C'est-à-dire sans frais cachés, sans les frais de motivation des enseignants, tous ces petits frais-là annexes qui finissent par faire très cher pour les familles.
S'il vous plaît, madame, laissez-moi un peu parler. Je voulais dire que nous avons, je vous donne les statistiques de nos partenaires qui ont constaté, par exemple, qu'en 2013, nous avons eu 133% de taux brut d'admission au primaire. 133%. C'est-à-dire, c'est grâce à cette mesure que nous commençons à récupérer. Et si vous avez suivi les informations en République démocratique du Congo, il y a quelques semaines, la directrice générale de l'UNESCO ainsi que l'envoyé spécial Gordon Brown était à Kinshasa pour dire aux autorités congolaises, vous êtes sur la bonne voie.
Oui, il y a eu des progrès très nets.
Il y a des progrès très nets. Avancés. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint les bons niveaux, mais avancés sur cette voie, vous êtes sur la bonne voie.
Néanmoins, alors 130%, on ne va pas rentrer dans les détails sur les taux bruts de scolarisation parce que c'est très compliqué, mais il y a quand même, source UNICEF, 30% des enfants de 5 à 11 ans qui ne vont pas à l'école. Ça fait 3,5 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école quand même.
Et avec ces données-là, toujours avec le même partenaire, nous avons constaté que nous avons pu récupérer, grâce à cette mesure de la gratuité, près de 2 millions d'enfants qui n'avaient plus de chance de retrouver le chemin de l'école. 2 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Et ça, c'est des efforts que le gouvernement a pu mettre en place. Ce que nous demandons souvent à notre société civile, c'est qu'il sache que pour la mise en œuvre de la gratuité, le gouvernement a fait une étude et a pris des mesures appropriées. La première mesure que nous avons prise, c'est uniformiser, peut-être ici en Europe, peut-être vous ne la comprendrez pas, uniformiser les salaires des enseignants. C'est-à-dire, avant, il y avait 3 zones de salaires des enseignants. Les enseignants de Lubumbashi, c'est ceux de Kinshasa et ceux de l'est du reste du pays, tous différemment. Alors pour qu'on mette en place la gratuité, nous avons dit tous les enseignants se mettent au niveau de la ville de Kinshasa.
Il y a une
c'est-à-dire on a directement quelque part augmenté les revenus des enseignants dans la ville de Kinshasa.
On va en reparler bien sûr des enseignants, des salaires des enseignants.
S'il vous plaît, la deuxième mesure que nous avons pu prendre, c'est donner des frais de fonctionnement aux écoles. Aujourd'hui, les gouvernements allouent régulièrement des frais de fonctionnement, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Nous donnons des frais de fonctionnement, mais ce que nous demandons souvent, c'est que l'école, comme il y a le, nous avons institué le partenariat comme mode de gestion, nous demandons aussi des parents, aux parents, de tenir compte des assemblées générales, de tenir des assemblées générales et de discuter avec les chefs d'établissement sur ce qui s'est fait. Les frais de fonctionnement que nous allouons aux écoles, mais qu'est-ce qui est fait réellement?
Pour répondre à la question de Balker, donc le processus de la gratuité en RDC, vous l'avez dit, a démarré en 2010. Oui. À quand la gratuité sur tout le territoire? Là, c'est quoi votre échéance, votre agenda?
Notre agenda, c'est que maintenant que le gouvernement a fait des efforts pour avoir un taux d'inflation de 1,6%, donc ce qui fait que c'est le taux d'inflation le plus faible d'Afrique, avec un taux de croissance de 8,5% qui caresse facilement le 9%, les ressources vont s'accroître certainement.
Et une fois vous avez que la démographie aussi
voilà,
qui accroît. Hein.
Justement, maintenant, quand nous atteignons avec un taux démographique de 3%, donc je croyais que nous allons dégager des ressources pour qu'on arrive à résoudre ces problèmes. Nous ne voulons pas prendre des mesures politiciennes. Des faits d'annonce, non. Nous allons en évaluant chaque étape.
Donc, pas de date pour la gratuité partout sur le territoire.
Ah, nous ne voulons pas
Et réel, comme le disent les auditeurs.
Non. Il y a la gratuité parce qu'il y a certaines écoles à l'intérieur du pays où vous pouvez facilement trouver jusqu'à 150 élèves dans une salle de classe. Et si on arrive à 150 élèves dans une salle de classe, c'est parce que la mesure de gratuité est effective. Mais il y a des coins, c'est un coin de la République où on a des petits problèmes et nous évaluons pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces provinces.
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, en direct, le ministre de l'Éducation au Congo, dans le studio des 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission pour discuter en direct avec le ministre de l'Éducation, Makamangu Famba, en RDC. Il est dans le studio à RFI à Paris, de passage en France. Nous donnons la parole à Papy qui est à Kinshasa. Bonjour Papy.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Monsieur le ministre.
Vous souhaitez
Bonjour, Papy.
Intervenir auprès du ministre et nous parler de la question des enseignants.
Oui, tout à fait. Donc, je voudrais juste savoir, Monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez uniformisé les salaires des enseignants. Oui. Mais moi, je suis enseignant depuis pratiquement plus de 10 ans.
Oui.
Et avec un niveau de Bac plus 5, donc une licence. Mais si on touche moins de $100 par mois, vous pensez que c'est suffisant pour vivre, Monsieur le ministre?
Non, je ne dis pas.
Qu'est-ce que vous pensez faire pour nous?
Cher ami Papy, j'ai dit que c'est pas suffisant. Je n'ai jamais dit ça. Mais je sais que ces salaires étaient à moins de 10 dollars il y a quelque temps. Donc maintenant, nous avançons, vous approchez, vous parlez maintenant des $100. Le gouvernement est conscient et il va toujours, et chaque année, il augmente. En 2014, s'il vous plaît, Papy, vous avez posé une question que je vous réponde. Donc, nous avons dit, si vous êtes à Kinshasa, vous savez bien que nous avons donc accru ce salaire à partir de l'année passée. Il y a eu une augmentation qui a été faite. Et à côté, vous d'ailleurs à Kinshasa, vous savez que nous faisons fonctionner la mutuelle de santé des enseignants, qui prend une grande partie aussi des frais. Parce que si aujourd'hui, vous-même, ou votre épouse, ou vos enfants, vous tombez malade, vous êtes totalement pris en charge par les trésors publics. Si vous êtes totalement pris en charge par les trésors publics, il faut demander à ces enseignants qui souvent tombent malades, où les coûts de soins coûtent parfois très cher, mais ces soins sont totalement pris en charge par les trésors publics. Et ça, c'est fait pour que vous arriviez quand même à couvrir vos fins de mois.
Papy, enseignant à Kinshasa.
Oui, mais je suis déçu, Vous pensez que prendre en charge des malades, c'est suffisant? Parce que vous attendez qu'on soit malade pour que vous nous preniez en charge, monsieur le ministre. On n'arrive pas à tenir le debout, mais c'est à la fin du mois qu'on meurt, monsieur le ministre.
S'il vous plaît, cher ami Papy.
Restez en ligne avec nous, Papy. On va vous reprendre juste après le flash. Et Makamangu Famba, vous allez bien sûr lui répondre. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, bien sûr, sur RFI. On rend l'antenne pour le flash. Et en attendant, vous continuez de nous appeler pour évoquer toutes les questions qui vous touchent, sur l'éducation, le primaire, le secondaire, les enseignants, la construction de l'école, aussi des bâtiments, les manuels scolaires. 33 1 84 22 71 71. Surtout, ne perdez pas de temps, appelez-nous dès maintenant.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur RFI 7 milliards de voisins. Nous parlons éducation comme chaque vendredi, mais une émission un peu particulière aujourd'hui. Je reçois en direct le ministre de l'Éducation, Makermangou Famba, pour dialoguer avec vous, les voisins et les voisines. Donc en direct, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Le Congo, on le disait en première partie d'émission, c'est vrai qu'il a fait de réels progrès sur l'éducation. Les bailleurs de fonds s'accordent à dire qu'il y a une vraie progression en termes de scolarisation des enfants. On a encore, c'est vrai aussi, 3,5 millions d'enfants entre 5 et 11 ans qui n'ont pas accès à l'école parce que l'école aussi coûte cher pour les familles. Mais c'est vrai que c'est un pays aussi qui partait de très loin. On a aussi à peu près la moitié des enseignants du primaire aujourd'hui en RDC qui sont encore payés en partie ou en totalité par les parents. Et nous étions avec un enseignant au téléphone, papy, tout à l'heure, qui vous interpellait, monsieur le ministre, sur les salaires des enseignants. Alors, vous souhaitez lui répondre, papy est toujours en ligne avec vous, il pourra également reprendre la parole.
Oui, cher ami papy, ce que je voulais dire, c'est ceci, c'est que il y a quelque temps, ce salaire était, dirons, dérisoire. Moi, je me...
Aujourd'hui, il nous le disait avant le flash, il a 100 dollars par mois.
Hein. Voilà, il approche les 100 dollars.
Dans une ville qui est chère à Kinshasa.
Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je n'ai jamais dit ça. Et le gouvernement ne dit pas que c'est suffisant. Le gouvernement pense que maintenant que les salaires sont réguliers, il y a quelque temps, les salaires n'étaient même pas réguliers. Aujourd'hui, à partir du 12-13 de chaque mois, les salaires sont déjà disponibles. Ces salaires sont même payés par la banque. Ce qui fait que papy a son salaire totalement. Et nous ajoutons alors la mutuelle de santé des enseignants. Il faut pas que papy pense que c'est rien. Parce que quand sa femme, quand son épouse ou ses enfants tombent malades, c'est à ce moment-là, généralement, que se posent des problèmes. Et nous recevons souvent des gens qui, à l'hôpital, commence à chercher même la carte, le petit parchemin qui lui permet de bénéficier de soins de qualité dans un centre de santé. Le gouvernement fait beaucoup d'énormes efforts. Ce n'est pas que le pour reprendre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la moitié des enseignants qui sont pas payés par les trésors publics. Non. Ils sont en tout cas ils sont très peu parce que même
c'est ce que disent certains experts. Enfin, vous savez, les chiffres en RDC, comme disent beaucoup d'experts et de consultants pour préparer cette émission, on a appelé plusieurs personnes qui nous disent que en gros l'administration scolaire, les données sont au pire fausses, au mieux incomplètes ou contradictoires.
Non,
voilà ce que disent tous les bailleurs qui travaillent sur l'éducation.
Et les
RDC.
Données que nous vous donnons, ce sont les données partagées.
Non,
les données que le ministère,
pour
le moment, les données que le ministère a, ce sont les données partagées avec nos partenaires et même avec les parents et toutes les différentes associations.
En tout cas, vous avez bien fait de préciser sur la bancarisation des enseignants qui maintenant perçoivent effectivement leur salaire directement sur leur compte en banque et donc ce qui évite une certaine déperdition pour les enseignants qui étaient loin, qui devaient soit aller chercher leur salaire, soit passer par des intermédiaires avec des commissions, etc. Et puis la mutuelle des enseignants, papy, vous voulez dire un dernier mot avant que nous passions la parole à d'autres auditeurs ?
Oui, d'accord. Merci, Emmanuel. Donc, juste pour... je ne suis pas ingrat, monsieur le ministre. Je vous remercie pour les efforts que vous faites. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que nous tombions malades pour nous prendre en charge. Je pense qu'il faut peut-être agir en amont.
Donc, puis,
si les conditions salariales...
Il faut anticiper. On ne peut pas attendre que vous tombiez malade. Mais imaginez-vous que vous tombiez malade, que vous n'avez rien. C'est ça le problème. Et nous devons anticiper dans votre vie. C'est un petit conseil que je vous donne, papy, régulièrement. Si vous avez des problèmes, vous avez un peu de ressources, prévoyez toujours quelque chose au moment où on ne sait jamais. Et les gouvernements pensent au moment où on ne sait jamais.
Voilà. Monsieur le ministre, on ne sait pas prévoir. Excusez-moi. Voilà. Si on doit comparer les salaires entre les différents acteurs politiques et les enseignants, monsieur le ministre, aujourd'hui, personne ne veut être enseignant. Demandez aux jeunes, personne ne vous dira qu'il veut être enseignant. La conséquence, c'est que l'enseignant ne sait pas être élitiste, l'enseignant ne sait pas être sévère parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires, monsieur le ministre.
Je suis conscient de tout ça, voilà, papy. Voilà. Je suis conscient de tout ça et nous disons, nous sommes, papy et moi...
Monsieur le ministre, on est là depuis 2006, monsieur le ministre. Donc aidez-nous à vivre mieux, s'il vous plaît.
Le salaire était moins de 10, il passe maintenant à 100. Je crois que le gouvernement fait d'énormes efforts. Vous et nous, on va avancer. On est sur la bonne voie, papy.
Merci, papy, pour cette intervention. Juste une chose en ce qui concerne l'accès à l'école. On l'a bien compris quand même. L'argent est un frein pour les familles pour mettre les enfants à l'école puisque la gratuité n'est pas réelle. En tout cas, elle n'est pas officielle déjà à Kinshasa et à Lubumbashi, les deux principales villes du pays. Et même ailleurs, on voit bien que c'est quand même très compliqué, que ça coûte de l'argent aux familles. Il y a un autre problème qui paralyse favorise l'accès à l'école hein, pour les familles, c'est le manque d'école tout simplement, y compris à Kinshasa. Est-ce que c'est normal que certains enfants soient à plus de 5 km d'une école dans une grande capitale comme Kinshasa?
Non. En tout cas, à Kinshasa, il y a des écoles, les problèmes sont réglés. Non. Madame, les écoles, les problèmes sont réglés. Les problèmes de frais, comme vous avez évoqué, c'est vrai. Je vous ai dit, quand le budget était...
Non, mais là, sur les bâtiments, sur la construction d'écoles, il manque des écoles, vous n'avez pas suffisamment construit pour répondre à la démographie.
Les taux d'occupation des salles de classe, pour le moment, avec l'UNESCO, c'est autour de 50. Mais là, je vous dis que nous sommes autour de 39. Le temps de 39 élèves par salle de classe. Ce qui est passable, ce qui est une bonne moyenne. Donc, nous avons suffisamment de salles de classe. C'est vrai que c'est pas Kinshasa, madame. C'est pas Kinshasa. Mais quand vous allez dans certains coins de la République, c'est vrai que les écoles sont parfois distantes de villages ou quoi. Et ça fait que parfois l'élève, surtout les plus jeunes, ont tendance à parcourir de longues distances pour aller à l'école. Voilà, et le gouvernement...
Mais pour
donc,
vous, c'est seulement dans les zones rurales.
C'est surtout dans les zones rurales.
Ça veut dire que une grande ville comme Kinshasa, un enfant dont les parents veulent l'envoyer à l'école, il y a une école non loin du domicile, qu'elle soit publique ou conventionnée. Hein.
Conventionnée, elle est aussi publique. Public ou privé, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les parents préfèrent parcourir, c'est le choix de chaque parent, ils préfèrent parcourir de longues distances pour amener son enfant dans une école de son choix. C'est ça le problème.
De son choix, c'est-à-dire de meilleure qualité.
De meilleure qualité, voilà.
Quand les familles ont les moyens.
Voilà. C'est ça le grand problème. Mais en ce qui concerne le moyen, nous avons fait des études, je vous ai dit, que nous faisons tout d'une manière partagée, d'une manière partenariale. Il y a quelque temps, les parents congolais intervenaient jusqu'à 70%, intervenaient jusqu'en concurrent de 70% pour le fonctionnement de l'école. Ces taux, nous sommes en train de les baisser. Aujourd'hui, ils tournent autour de 40-47%. Les restes, c'est pris en charge essentiellement par le gouvernement, qui, comme j'ai dit, j'ai parlé de la mutuelle de santé, j'ai parlé de manuels scolaires qui sont maintenant distribués. Les manuels scolaires, il y a quelques temps, il y avait 3 manuels pour un élève, mais là, nous sommes en train d'avoir les ratios un élève, un manuel. Ah, ce sont des avancées très significatives.
Justement, vous nous promettiez il y a quelques mois, avant la rentrée scolaire, un manuel par élève dans toutes les écoles primaires de RDC.
C'est fait.
C'est effectif?
C'est effectif. Les manuels ont été distribués à travers toute la République. Il nous reste un seul manuel, celui d'éducation civique et morale, qui est sous impression. Et d'ici 2 mois, ces manuels seront disponibles aussi dans les écoles.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On va vous rappeler tout de suite le numéro de téléphone à l'antenne 7 milliards de voisins.
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
33 1 84 22 71 71. Nous dialoguons avec vous, les voisins, les voisines et le ministre de l'Éducation, Maker Mwangu Famba, en République démocratique du Congo. Il est de passage en France et dans le studio à Paris de RFI. Nous accueillons Jenny qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Jenny.
Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les éditeurs de RFI.
Jenny, vous souhaitez intervenir sur la qualité de l'enseignement?
Oui. En fait, voilà, au-delà de tout le problème que vous évoquez de la gratuité de l'enseignement, de tout ce qui a été fait, il y a un problème qui reste. C'est à propos de la qualité de l'éducation que nous recevons en RDC. Monsieur le ministre, c'est que le programme que nous utilisons, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du secondaire ou de l'université, en fait, c'est un peu le mal de ce que nous avons reçu de l'époque coloniale. Il y a des réformes qui ont été faites, mais ça n'a rien changé en tout ça. Et lorsque vous voyez comme ça, on arrive à l'université, on a deux gens, des étudiants qui ne savent ni lire ni écrire, et ces mêmes étudiants ont passé 12 ans dans le banc de l'école, là ça pose un problème. Vous voyez, alors on demande à monsieur le ministre quelles sont les réformes, le mesure prises en compte pour essayer un peu de remédier à tous ces problèmes-là.
Oui, c'est ça, vous avez finalement le sentiment que pour des gens qui ont passé 10 ou 12 ans à l'école, les familles ont dépensé de l'argent pour rien, et même l'État a investi aussi pour rien, pour des résultats extrêmement médiocres. Merci Jenny pour cette intervention. Je voudrais aussi qu'on accueille Naro qui est à Kinshasa également. Bonjour Naro.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes fondateur d'une école privée hein, dans le secteur de l'éducation à Kinshasa. Vous souhaitez intervenir aussi sur la qualité de l'enseignement et des profs, évidemment.
Oui. Alors là, je dis bonjour, monsieur le ministre.
Ah, bonjour, Naro.
Oui, je sais que vous êtes un excellent ministre. Hein. vous défendez le gouvernement, mais vous avez vraiment une grande part de responsabilité. Et, ministre que vous êtes, moi, je voudrais dire que le vieillissement du personnel, 60% de nos enseignants ont vieilli. Ils ont même ceux qui dirigent plus de 105 ans. Moi, je suis fondateur d'une école, j'en ai plus de 108 ans. Alors, je suis au service du pays depuis 45 ans que je m'occupe près des élèves. Qu'est-ce que vous dites de vieillissement du personnel? Et puis, dans la filière pédagogique, les jeunes ne sont pas attirés. Il y a quelques écoles où il y a des élèves qui sont bien formés, bon, dans les écoles privées, vous comprenez.
Finalement, vous reprenez un peu les propos de Papy tout à l'heure, qui disait pour 100 dollars par mois à Kinshasa, qui voudrait être enseignant?
Oui, c'est cela, voilà. Donc, il y a aussi question de salaire, mais le vieillissement du personnel. Ici, 10-20 ans, on va importer des enseignants dans ces pays.
Ce ne sont pourtant pas les jeunes disponibles et sans emploi qui manquent et qui pourraient devenir enseignants. Alors, la réponse du ministre de l'Éducation.
Merci beaucoup, madame. Merci, Jenny, et bonjour à Jenny et à Naro. En ce qui concerne la qualité, c'est un problème réel et nous sommes conscients de ça. Nous avons, dans un premier temps, abordé le problème de l'accès, permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Les taux que nous avons maintenant dans nos écoles nous renforcent dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, c'est le problème de la qualité qui nous intéresse. Et en ce qui concerne la qualité, nous avons dit, bon, nous abordons d'abord ce problème en donnant les manuels de référence dans les différentes écoles, parce qu'il n'y en avait pas. La deuxième chose, c'est assurer la formation continue des enseignants. Nous sommes en train de placer à travers toute la République, avec les concours parfois de nos partenaires, des centres de formation pour les enseignants, pour les recycler. Et d'ici là, d'ici, je crois, 2-3 mois, nous allons utiliser les nouvelles technologies de l'information et de communication.
Alors, on peut peut-être préciser, monsieur le ministre, que vous avez, il y a un fonds chinois qui va financer la formation de 4500 enseignants dans le primaire et le secondaire. Vous confirmez ça d'ici 2016?
Je confirme.
À hauteur $1 million. Est-ce que ça suffit?
Non, c'est pas suffisant. Voilà comment nous allons faire, parce que avec le fonds chinois, nous allons prendre 2 à 3 provinces. Il y a le partenariat mondial pour l'éducation qui a pris 2 provinces et le gouvernement, le premier ministre a demandé qu'on prenne les restes. Et les restes, c'est combien? Ça fait quand même 6 provinces. Donc le gouvernement va prendre en charge la formation continue des enseignants dans d'autres provinces, dans 6. Et les enseignants vont constituer un réseau. Vont avoir des iPads où ils peuvent trouver des informations sur les bonnes et les mauvaises pratiques quand ils sont dans les salles des classes. Voilà comment nous voulons vraiment aborder le problème de la formation et de l'amélioration de la qualité. Ça, c'est la formation continue. Certainement qu'en ce qui concerne la formation initiale, nous avons abordé le problème de l'harmonisation ou de réforme de nos différents programmes. En ce qui concerne le vieillissement du personnel, Naro a aussi raison. Effectivement, l'âge moyen, c'est autour de 55 ans, 60 ans. C'est quand même un problème.
Dans un pays aussi jeune que la RDC.
Voilà, donc il faut mettre en retraite ceux qui travaillent. Et donc le gouvernement a pris la décision de mettre en retraite. Une caisse a été créée, qui est gérée par mon collègue de la fonction publique. Et nous allons donc amorcer le processus de la mise en retraite, du recrutement et de la formation, de nos différents enseignants. J'aimerais quand même revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne la construction. Je crois qu'on n'en parle pas assez.
Construction
d'école. On n'en parle pas assez. Le gouvernement a amorcé une politique très, très intéressante de construire partout et même dans le village. Nous avons commencé avec une première phase de 1000 écoles parce que l'instruction que nous avons reçue du président de la République, c'est construire 1000 écoles par an. Sur les 1000 écoles, nous avons terminé 500 en une année. Et 500 en une année, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et on nous a demandé, le Premier ministre a demandé maintenant que nous continuions sur la même lancée, des ressources nous seront encore allouées pour que 2015, qu'on puisse même doubler, pourquoi pas, et qu'on ait comme ça, on a des écoles à travers toute la République. Autre chose aussi, c'est que nous voulons mettre aussi nos communautés au travail, et nous allons bientôt, sur demande encore une fois de nos parents, donc on va mettre à la disposition des différentes communautés, des tôles, comme ça les parents pourront voir dans quelle mesure ils peuvent aussi améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants.
Monsieur le ministre, on a énormément d'auditeurs qui souhaitent discuter avec vous. On accueille, je crois, une enseignante, Myriam, qui est à Kinshasa, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Myriam.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons, Myriam. Vous êtes en direct.
Je suis enseignante. J'appelle de Kinshasa. J'ai suivi attentivement tout ce que le ministre est en train de dire. Et moi, je suis offusquée. J'ai l'impression que le ministre est satisfait par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tant qu'enseignante, je voudrais demander au ministre de penser aux enseignants. Nous avons des très bons enseignants, mais qui sont démotivés, d'abord parce qu'ils sont mal payés. Avec 100 dollars à Kinshasa, vous ne savez pas vivre. Vous ne savez même pas payer le loyer. Et le ministre se plaît à dire qu'ils sont arrivés à égaliser le salaire de tous les enseignants sur toute l'étendue du pays. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a peu d'enseignants ici à l'école. Personne ne voudrait devenir enseignant ici à Kinshasa ni au pays. Et en plus de cela, le ministre qui se plaît à dire qu'ils ont des mutuelles de santé pour les enseignants. Avec les 100 dollars qu'on donne aux enseignants, ils sont obligés de cotiser encore pour cette mutuelle. Qu'est-ce qu'ils ont à la fin du mois? Même s'ils sont bancarisés, mais qu'est-ce qu'ils vont retirer à la banque à la fin du mois? Monsieur le ministre, soyez humain. Nous vous demandons de penser aux enseignants parce que la situation des Congolais est dramatique. Ne vous réjouissez pas, ne faites pas de comparaison pour dire le gouvernement passé, tout ça en pensant à l'époque de Mobutu. Je dirais même que l'époque de Mobutu était mieux que maintenant. Ce que nous vivons ici au pays, au Congo, c'est dramatique. Nulle part au monde on vit cette situation, monsieur le ministre.
Ouais. Bon, Makar Mambou Famba, vous répondez rapidement parce qu'on a d'autres auditeurs qui souhaitent également vous interpeller. Vous défendez votre bilan, vous êtes là pour ça, ça semble logique.
J'aimerais vraiment rassurer, chère amie Myriam, que je suis pas du tout satisfait. Je n'ai pas dit que je suis satisfait. Je donne un bilan. Je dis qu'il y a quelques années, même quand vous parlez de la période de Mobutu, je ne pense pas que vous pouvez dire ça, madame, parce que à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les taux du jour. Hein, donc vous avez un salaire le matin, il ne vaut rien à midi, et après le soir c'est vraiment nul. Aujourd'hui vous avez un taux d'inflation de 1,6, c'est-à-dire chaque fois quand le gouvernement accroît tant soit peu les salaires des enseignants, il améliore quelque part le pouvoir d'achat. Il améliore le pouvoir d'achat. Il faut pas minimiser non plus la mutuelle de santé. Il faut pas dire que c'est rien. Parce qu'il faut suivre ces enseignants qui viennent, qui sont malades, qui ont leur famille, leur femme ou leurs épouses ou leurs enfants qui ne peuvent pas bénéficier de soins. Je crois que Myriam, je sais, je connais, je comprends, je compatis à ce que vous dites, mais moi je ne dis pas que je suis content du bilan. Par contre, nous faisons tout pour améliorer et nous devons le faire avec vous. Et nous le faisons avec vous.
Il nous reste peu de temps dans l'émission. On va pas non plus consacrer toute l'émission au salaire des enseignants, même si c'est bien sûr une question cruciale, hein. Aujourd'hui, pour le système scolaire en RDC, c'est que l'État parvienne à investir davantage dans les salaires des enseignants.
Je voudrais vraiment dire à Myriam qu'elle ne peut pas comparer la période d'aujourd'hui, parce que moi j'ai vu les enseignants qui me disaient qu'à l'époque, leur salaire valait une bouteille de Coca-Cola. J'ai vu des enseignants me dire ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une bouteille de Coca-Cola, c'est plusieurs casiers. Je ne dis pas que c'est suffisant. Il faut que je me comprenne bien. Myriam, je ne suis pas content. J'ai dit, il faut qu'on améliore vos conditions de vie. Et le gouvernement est conscient de ça. Le président de la République est conscient de ça.
Nous laissons la parole à un auditeur, Alpha, qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Alpha.
Bonjour Emmanuel, bonjour Monsieur le Ministre.
Alpha, vous êtes enseignant dans le secteur, l'enseignement secondaire dans le privé. Vous souhaitez intervenir sur un point précis sur la tricherie organisée, la complicité des enseignants.
Bien sûr Emmanuel, et je suis d'ailleurs très content de pouvoir partager cet avis. Le problème est le suivant, je suis à Lubumbashi, je suis professeur à l'école secondaire, je suis professeur de français. Et ce qui est très triste, monsieur le ministre, c'est qu'il y a des élèves qui doivent quitter Lubumbashi pour aller présenter leurs examens d'état à Kasumbalesa, c'est-à-dire dans la cité frontalière, à plus ou moins
90
kilomètres de Lubumbashi. Oui, avec la Zambie, bien sûr. Et ce qui est très triste, c'est de voir que les écoles qui amènent ces enfants-là à Kasumbalesa, ce sont des écoles qui n'ont pas de bâtiment, mais qui ont l'autorisation uniquement sur papier. Une fois on les amène à Kasumbalesa, c'est de la tricherie organisée. On prend les items ou les questionnaires, on les sort par la fenêtre à un groupe de professeurs à l'extérieur qui traitent et qui ramènent les réponses auprès des enfants. Et tout d'un coup, vous apercevez, c'est 90% de réussite, 80% de réussite. Et je doute fort que le ministre n'en soit pas informé, parce que c'est connu de tout le monde ici, Lubumbashi. Et j'aimerais savoir ce que le ministre pense de cela, car si vous êtes à Kasumbalesa, c'est comme si vous êtes à 2000 km de Lubumbashi. Or, entre Kasumbalesa et Lubumbashi, c'est juste 45 minutes. Voyez-vous, Emmanuel, je ne sais pas ce que le ministre pense.
On va lui laisser la parole. Merci Alpha pour cette intervention. C'est vrai qu'on a beaucoup aussi de messages qui concernent la malgouvernance, la corruption dans les milieux de l'éducation en RDC. Makamangu Famba.
Oui, je remercie mon Alpha. Je remercie Alpha pour les informations graves qu'il est en train de nous donner. Moi, je pense qu'il faut qu'il les relativise quand même, parce que quand on examine les taux de réussite, hein, il parle de 90% de réussite. Non, l'année passée, en 2013, nous avons eu un taux de réussite national de 47%. 47%. Cette année, il y a eu une légère amélioration. On a dépassé les 50%. Donc, ces enfants qui, avec le concours des parents, qui nous demandent aujourd'hui d'améliorer la gouvernance, ce sont ces parents qui amènent leurs enfants à Kasumbalesa. Donc, les parents, pour nous, constituent vraiment les premiers partenaires. Si on veut qu'on améliore la formation des enfants,
C'est aux parents de refuser de soudoyer
les enseignants.
Les parents
doivent refuser, ils doivent nous dire qu'est-ce qui se passe. J'étais très content. C'est une expérience que j'ai eue une fois j'étais à Goma. J'ai vu comment les parents étaient en train de s'organiser pour que des choses pareilles que notre ami Alpha est en train de donner. Comment ces histoires ne peuvent pas se dérouler avec les concours des parents? Donc il n'y a que le
parent. Encore faut-il que si les parents signalent ce genre de dysfonctionnement, l'administration scolaire soit capable de sanctionner les enseignants. Est-ce que ça se fait?
Les parents, la gestion de l'école au Congo, c'est que les parents sont intimement liés au fonctionnement de l'école. Vous avez chaque école a un conseil de gestion. Dans ce conseil de gestion, vous avez les chefs d'établissement et trois parents. Et nous insistons pour qu'on ait, ne fût-ce qu'au minimum, une dame dans ce comité de gestion. Donc, ceux-là,
bon, ils doivent... Bon, vu ce que les parents dépensent pour l'école au Congo, c'est normal qu'ils soient associés, ceci dit.
Non, je vous ai donné tout à l'heure les taux, madame, pour dire que ces interventions, il faut relativiser. L'intervention des parents diminue.
Mais alors, est-ce qu'il y a des sanctions d'enseignants quand il y a des problèmes de gouvernance?
Bien sûr, il y a beaucoup de sanctions que nous prenons à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les instructions scolaires.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Nous accueillons une étudiante qui est à Lubumbashi, également dans la deuxième ville du pays. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel, bonjour tous les auditeurs de 7 milliards de voisins.
On vous écoute Sarah.
Je voulais intervenir pour dire au ministre que la problématique n'est pas seulement la gratuité ou encore la paye des enseignants, mais elle est basée aussi sur la sensibilité des parents pour envoyer les enfants à l'école. Les parents à qui c'est ça ou encore en dernier lieu préfèrent amener leurs enfants à faire des petits travaux pour amener un peu de pain à la maison, mais non pas les envoyer à l'école. Il va falloir que le ministre puisse essayer de toucher aussi ce point pour sensibiliser plus les parents à envoyer leurs enfants à l'école et empêcher cette tricherie, parce que ce sont les parents eux-mêmes qui participent à la tricherie en refusant que l'enfant reprenne, vu qu'il se dit « non, je paye cher ». C'est pas possible que l'enfant reprenne quand on sent que non, sa qualité n'est pas bonne.
Ouais. Alors pour revenir au premier point que vous avez soulevé, c'est intéressant parce que c'est aussi soulevé par de nombreuses études sur l'école en RDC. C'est vrai que pour les familles modestes, dépenser de l'argent pour envoyer ses enfants à Kinshasa où l'école n'est donc pas gratuite, on se dit à quoi bon, pour quel résultat? Les parents, même de familles très modestes, se rendent bien compte que les enfants n'apprennent pas grand-chose à l'école, en tout cas dans les écoles publiques qui ont des problèmes de qualité, Makamangu Famba.
Oui, les taux de redoublement a sensiblement baissé.
Enfin, le taux d'abandon scolaire reste très élevé. On est autour de 40% des enfants qui abandonnent l'école avant la fin du primaire.
Au début de notre émission, je vous ai dit comment nous voulons aborder les questions de l'enseignement en ce qui concerne l'initiation à la nouvelle citoyenneté et l'importance que nous devons accorder à la formation continue. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? La formation professionnelle. Mmh. Au niveau de la formation professionnelle, nous chercherons à ce que, à chaque étape, de la scolarité de l'enfant, qu'il soit en mesure d'apprendre quelque chose, d'apprendre un métier, pour qu'il ne considère pas qu'une fois qu'il entre en première année primaire, il va tout droit vers l'université. Non. Et ce qui fait que s'il n'arrive pas à l'université, il est presque, il risque de devenir prochainement un analphabète.
C'est ça, une perspective donc, professionnelle. Voilà, dans le secondaire, ça pourrait remotiver les parents pour mettre les enfants en primaire.
Voilà. Donc, nous avons la loi, sur l'enseignement qui venait d'être promulguée par le président de la République il n'y a pas longtemps. Cette loi propose que nous ayons ou donne une grande réforme. C'est que nous allons maintenant étendre l'éducation de base à 8 ans. Donc l'enfant qui passe de 6e année primaire, il passe en première année secondaire, ici à 2e secondaire. Et dès qu'il termine maintenant la deuxième année secondaire, il doit être en mesure de réaliser ou d'exercer un métier quelconque. Et voilà c'est comment nous avons la grande réforme que nous avons pu lancer.
Encore du pain sur la planche, monsieur le ministre Makamangou Famba, vous êtes ministre de l'éducation depuis 7 ans maintenant, vous êtes partie des ministres qui ont la plus grande longévité au même poste, hein, c'est-à-dire à l'éducation, vous êtes aussi député dans le Kasaï occidental. Je me posais la question en vous écoutant, finalement, est-ce qu'il y a une vie après l'école en RDC ? Pour vous, j'entends.
Oui, il y a une vie après l'école, donc nous devons tout faire pour.
Non, mais
que...
pour votre carrière en tant que ministre de l'Éducation.
Oui.
Ministre de l'Éducation emblématique, donc depuis plus de 6 ans, 7 ans.
Emblématique, je ne sais pas, mais bon.
Ah non, mais vous êtes resté longtemps au même poste, alors la question c'est ensuite.
Ensuite, je ne sais pas. Quoi ensuite ? Je suis là, donc j'exerce mes fonctions maintenant. Les fonctions qui me sont confiées par le président de la République, par la communauté, et voilà. Donc
merci en tout cas d'être venu dans le studio de 7 milliards de voisins. On se retrouve demain pour une autre émission, bien sûr, sur RFI. Merci les auditeurs.